Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 4. À partir du verset 1er. 2 Corinthiens au chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Je recommence. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous, nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Ça, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Il dit, nous avons ce ministère. Quel est le ministère qu'ils ont? Le ministère d'annoncer l'évangile. Le ministère qu'ils avaient, c'était d'annoncer l'évangile. Il dit, nous avons reçu la miséricorde. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et il nous a donné le ministère d'annoncer l'évangile. Et il dit, nous refusons les choses honteuses, les complots. En annonçant l'évangile, nous voulons faire les choses d'une manière droite. Il dit, nous refusons les astuces. Les astuces, c'est des calculs, c'est des petits pièges qu'on fait. C'est des stratégies qu'on se donne parfois dans le mal pour atteindre certains objectifs. C'est des astuces. On fait des calculs. On se dit, tel va aller dans telle direction. Moi, je vais faire ceci contre lui. Ou bien pour bien avoir telle personne, il faut lui présenter telle chose. Ce sont des astuces. Et Paul dit, nous refusons d'être astucieux. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous refusons de changer la parole de Dieu comme si elle n'était pas suffisante pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit, nous prêchons la parole de vérité telle qu'elle est donnée. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous présentons la vérité telle qu'elle est, nue, afin que chacun se retrouve face à Dieu. Parce que l'homme voudrait tellement réussir qu'il va en arriver à altérer la parole de Dieu pour réussir. Il ne faut pas altérer la parole de Dieu pour, entre guillemets, réussir. Il faut donner la vérité telle qu'elle est. Si notre évangile est encore voilé, c'est ça notre thème de ce soir, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà notre thème. Verset 3-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je voudrais nous faire prendre conscience ce soir que lorsque nous annonçons l'évangile, il faut comprendre que si les gens ne comprennent pas, c'est pas seulement parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que il y a des démons, des mauvais esprits qui ont mis un voile sur la compréhension. C'est une réalité. C'est un appel à ce que chacun de nous prie pour les choses de Dieu. Quand on est nouveau chrétien, on sait prier comme un enfant parce que on ne se croit pas fort et on dépend complètement de Dieu. Mais quand on commence à grandir, à prendre de l'âge dans la vie chrétienne, nous avons plus ou moins des méthodes, des façons de faire, nous avons plus ou moins des acquis. Et quand nous avons ces acquis, petit à petit, nous négligeons la face de Dieu, la présence de Dieu, pour préférer nos méthodes et nos artifices. C'est pourquoi Paul dit, nous, on ne fait pas d'artifices. On ne fait pas de techniques. Nous finissons par faire des réussites anciennes de Dieu, des techniques. Comme dans tel endroit, j'avais prêché de telle manière et le Seigneur avait touché les gens. Je vais essayer de répéter la même manière pour essayer de toucher les gens. C'est des techniques. Comme il y a un tel, j'avais prié pour lui, il avait été guéri, c'est pourquoi il s'était converti. Alors je vais demander à chaque fois que Dieu guérisse les gens pour qu'ils se convertissent. Ça, c'est des techniques. On cherche des artifices, des astuces. Paul dit non, nous refusons de chercher les astuces. Nous voulons prêcher la vérité nue, telle qu'elle est. Et en prêchant la vérité telle qu'elle est, nous mettons les gens en face de Dieu lui-même. Parce que si nous embellissons la vérité, si nous mettons nos propres ingrédients, finalement les gens ne sont pas en face de Dieu. Ils sont en face de notre parole à nous. Or, nous devons prêcher la vérité telle qu'elle est, afin que les gens soient en face de Dieu lui-même. Que ce soit Dieu qui leur parle. À chaque fois que nous embellissons, à chaque fois que nous employons des astuces, des artifices, nous faisons que les gens sont en face, finalement, d'un homme et de sa parole. Et l'évangile devient de plus en plus compliqué à de telles personnes pour le recevoir. Bien-aimés, j'ai parlé de l'évangile à quelqu'un dans l'avion. L'évangile simple, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu, voyant que nous avions une maladie mortelle, il a envoyé son fils Jésus pour prendre cette maladie-là afin que nous nous soyons sauvés. Le monsieur qui avait écouté toutes sortes de pasteurs, toutes sortes, il avait lu toutes sortes de livres de chrétiens, c'est pourquoi il était dans une position orgueilleuse. Il se sentait fort parce qu'il se disait, j'ai lu la Bible, j'ai lu tout ce que vous dites, j'ai lu les livres, j'ai écouté des pasteurs. Pour moi, j'ai mon idée de Dieu, j'ai mon idée de la religion. Mais lorsque je lui ai présenté tout simplement ce qui est écrit dans la Bible, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas un seul, même pas moi, n'importe qui, il n'y a pas de juste, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui a envoyé son fils Jésus pour porter nos péchés, afin que nous nous soyons sauvés. Je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, mais est-ce que ça c'est ta philosophie ou c'est vraiment tiré de la Bible? J'ai dit non. C'est ça que la Bible dit. Mais tu as tellement écouté et lu des livres compliqués que tu as l'impression que c'est l'évangile simple maintenant qui est compliqué. C'est parce que tu t'es laissé compliquer par des forces démoniaques liées à toutes sortes de lectures chrétiennes, entre guillemets, que tu as pu lire et tu n'arrives plus maintenant à contempler, à réaliser la splendeur du vrai évangile. C'est ça la réalité, bien-aimé. Prêchons l'évangile tel qu'il est simplement en nous appuyant sur la prière et non pas en nous appuyant sur notre éloquence ou nos méthodes ou des sortes de séductions comme certains organisent l'église de sorte à ce que la louange soit impeccable, telle chose soit impeccable afin d'attirer les gens et ainsi nous pourrons les avoir à Jésus. Il y en a même qui promettent aux gens des miracles. D'autres imposent carrément des mains à un païen. J'ai parlé à un païen hier. Il m'a dit qu'il était dans une église. Le pasteur est venu lui imposer les mains par la langue. Bien-aimé. Un tel homme, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? L'évangile est trafiqué. Donc le pasteur devait se dire, s'il parle en langue, il va comprendre que Dieu est tout puissant. Bien-aimés, Paul a dit, nous ne cherchons pas d'artifice. nous expliquons aux gens la réalité. C'est que l'homme est pécheur. Il est en train de mourir dans son péché. Et il a besoin de Jésus pour son salut. C'est aussi simple que ça. Ne nous compliquons pas les choses. Bien-aimés, les gens sont entourés de démons. Nous ne les voyons pas, mais c'est la Bible qui nous le dit. Ils sont entourés de démons et de forteresses qui les empêchent de croire tout simplement en Dieu. Or, croire en Dieu, c'est tellement simple. C'est pourquoi Paul dit que leur intelligence a été aveuglée. Parce que l'homme, même l'homme naturel, devait ne serait-ce que saisir que Dieu existe. Même s'il ne va pas comprendre tous les mystères sur Dieu, mais ne serait-ce que réaliser qu'il y a un créateur, réaliser qu'il y a Dieu. L'homme naturel devant Jésus devrait comprendre que ça, c'est le Fils de Dieu. Parce qu'il y a de telles évidences. Mais pourquoi les gens ne croient pas? Parce que les démons les empêchent de croire. Maintenant, nous, au lieu maintenant de combattre spirituellement, dans la prière, de réclamer les bénéfices de l'œuvre de la croix, de réclamer les bénéfices de l'œuvre du Fils de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'employer les méthodes. Nous menaçons humainement. Nous prophétisons parfois faussement pour épater. Certains veulent le miracle pour épater, pour convertir les gens. Nous utilisons des artifices, des astuces. Nous réfléchissons plus que nous prions. Dieu veut que nous prions. Parce que ces gens-là sont entourés de démons qui les empêchent de comprendre la splendeur de l'évangile. C'est ça leur boulot. Parce que normalement, l'évangile est simple. Moi, j'ai vu rien qu'un chien. Un chien berger, je crois qu'il devait être jeune. Quand je l'ai vu, j'ai adoré le Seigneur. J'ai dit, quelle beauté. Il était tellement beau et innocent. On aurait l'impression de voir un ange bien-aimé. Rien qu'un chien berger, un chien plutôt allemand, un berger allemand, c'est ça qu'on dit, voilà. Il devait avoir peut-être 2 ans. Mais quelle beauté, bien-aimé. Mais comment un homme bien-aimé peut se réveiller en mangeant les pommes, les oranges, en regardant la beauté des bébés et dire que Dieu n'existe pas? Vous croyez que ça vient de l'homme, ça? C'est les démons. C'est les démons. Comment un homme peut regarder le soleil, la lune, les étoiles et dire que Dieu n'existe pas? C'est impossible à imaginer. Mais nous étions tous de ceux-là. Moi, j'ai remercié le Seigneur. Parce que je me souviens que quand j'allais à l'école, il y avait des prédicateurs qui entraient dans le bus pour parler de Dieu. Bien-aimé, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, mais ça ne me faisait rien du tout. Donc je devais être rempli de démons à l'époque. Pour ne pas, parce que le prédicateur, il s'essoufflait, il sortait. Moi, pour moi, rien ne se faisait en moi. Donc il n'y avait même pas un soupçon de réfléchir à tout ce qu'il disait. Je ne réfléchissais même pas à ça. C'est une réalité. Les démons empêchent les gens de saisir l'évangile. Et donc nous devons aller vers les gens dans une logique de prière, dans une logique d'intimité avec Dieu. Au lieu de te concentrer sur les gens, concentre-toi sur Jésus qui a brillé dans ton cœur. C'est ce que Paul dit. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc Dieu compte sur toi pour faire resplendir sa lumière. Donc il faut que toi-même tu acceptes cette lumière fortement. Et cela s'entretient dans la prière, cela s'entretient dans la méditation de la vision de Dieu, dans la méditation de l'œuvre du Seigneur. Quand tu médites ce que Jésus a fait, tu es fort. Vous savez, un païen m'a dit, mais moi, je ne peux pas me pardonner ce que j'ai fait. Mais c'est un païen qui a vécu dans le milieu chrétien, qui connaît bien un peu, qui connaît assez bien l'évangile. J'ai dit, mais le Seigneur te pardonne? Il dit, non, j'ai fait trop de mal. Et moi je lui ai dit, est-ce que tu connais la souffrance de Jésus? Il me dit, oui, je connais ça. Moi, j'ai dit alors, est-ce que tu imagines le Fils de Dieu souffrir autant, humilié? Donc tu veux dire que ton péché est plus grand que sa souffrance? Il s'est tu, bien-aimé. Il a compris que Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus afin qu'il vive. Satan va te dire, tu as trop péché, tu as trop péché. Bien-aimé, les gens ont besoin de l'évangile simplement donné avec un amour lié à, qu'on obtient en étant un intime de Dieu. C'est-à-dire, tu penses au salut de l'âme. Tu ne penses pas à ton résultat, à toi, de réussir ton évangélisation. Tu penses à son salut. De sorte que même si, bien-aimé, la personne ne se convertit pas, toi, tu restes dans un état d'amour, dans un état de contrition, de pleurs pour cette personne-là, dans un état aussi d'assurance, de savoir que tout ce que tu as sorti de ta bouche ne retournera point au Seigneur sans accomplir ses objectifs. Tu as le tout à la fois. Tu as la foi, tu as l'amour, tu as la compassion. Cette compassion peut amener une sorte de tristesse, mais ce n'est pas une tristesse de défaite, mais c'est une tristesse liée à l'amour. Tu aimes tellement la personne que tu es triste de la voir ne pas accepter le Seigneur. Mais tu restes dans la foi, dans l'assurance des paroles qui sont sorties de ta bouche. Tu restes dans la foi, dans l'assurance de ce que Jésus a fait à la croix. Parce que Jésus n'a pas eu besoin que toi tu naisses pour qu'il dise tout est accompli. Il a dit tout est accompli avant que toi tu sois chrétien. Avant que toi tu sois quelqu'un qui parle de lui. Il a déjà dit tout est accompli. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 7, 9. Le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Le salut c'est un bien de Dieu. Il le donne. Alors qui devons-nous chercher? L'éloquence ou des puissances? Non, nous devons chercher l'intimité avec le Seigneur. Chercher sa vision. Comprendre les souffrances de Jésus-Christ. Les souffrances de Jésus sont infiniment immenses, ont été infiniment immenses. C'est pourquoi vous voyez bien que Jésus, même ressuscité, il est ressuscité avec des trous dans ses mains, des trous à ses pieds, un trou aux côtés, parce que ses souffrances l'ont marqué à jamais. Mais c'est les souffrances de la victoire. Quand on médite tout cela, on peut dire à un païen, n'ayez pas peur, Jésus-Christ va te pardonner. Tu vas devenir une nouvelle création. Mais quand on médite les difficultés que va poser le païen, on se dit, il a lu beaucoup de livres, on se dit, il est bac plus 20, on se dit ceci, on commence à réfléchir à lui et à trouver comment être en accord avec, être supérieur à son intelligence, supérieur à sa logique. Nous tombons dans les calculs, nous tombons dans les astuces, nous tombons dans les artifices. Nous devons réfléchir sur ce que Jésus a fait pour ces païens-là. Peu importe qu'il soit trop intelligent, peu importe qu'il ait beaucoup d'argent, nous devons réfléchir sur ce que Jésus a fait pour lui. Comment Jésus voit ce païen? Il le voit pauvre alors qu'il est millionnaire. Mais toi, si tu regardes avec tes yeux, tu dis, mais il est millionnaire, qu'est-ce que je peux lui dire? Tu es totalement bloqué. Au lieu de regarder avec les yeux du Seigneur, qu'est-ce qu'il est? Il est pauvre parce que ses millions ne le sauveront pas de la mort. Donc tu peux te présenter avec courage devant ce païen-là pour lui dire, Jésus veut te donner la richesse. Bien sûr qu'il sera étonné de dire, mais non, mais moi je suis riche. Non, tu n'es pas riche. Parce que voilà, le jour de ta mort, même un tout petit paysan qui boit son lait et son fromage, il mange son fromage, il est plus riche que toi. Ah, c'est bien aimé, c'est là qu'il se rend compte. Mais si tu réfléchis sur lui, tu lui dis, bon, de ce genre de monsieur, de millionnaire, pour qu'il croie, il faut qu'il écoute un pasteur qui est aussi millionnaire. Comme ça, il va voir que Dieu aussi enrichit les gens. Bien-aimé. Ça, ce sont les artifices. Ce sont les astuces. Ça ne marche pas. Ça, c'est altérer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée nue, sans calcul. Dire, parce que nous respirons la même soif que Dieu de voir les gens sauvés. C'est très important, bien-aimé. Les gens ont affaire à des démons. Comment quelqu'un peut ne pas apprécier Jésus-Christ? Hier, je suivais une émission à la radio, non, à la télévision, sur les mineurs chiliens. Et puis, il y a un homme, un humoriste qui dit, bon, j'ai aimé quand ils sont sortis, mais ce que j'ai détesté, c'est quand ils ont prié. Alors, donc, quelqu'un Il est fâché parce que les gens ont prié. Pourquoi cet homme peut se fâcher parce que les gens ont prié? C'est les démons. Qu'est-ce qui lui fait mal que quelqu'un prie? C'est les démons. Et bien aimé, que personne ne vous trompe. Les incrédules, tous ces gens-là, sont aveuglés. Il y a leur part, c'est vrai. Ils ont commencé par leur propre incrédulité, par leur propre méchanceté. Ils n'ont pas accepté l'évidence de Dieu. Mais cependant, le diable est venu ajouter une couche. Et avant qu'on éteigne même ces gens-là, on doit d'abord déchirer le voile que le diable a mis. Et ce, dans la prière et dans notre intime communion avec Dieu, dans notre simplicité d'annoncer l'évangile, c'est comme ça que nous pouvons déchirer ce voile. Ce n'est pas par nos raisonnements, par nos artifices ou nos astuces. C'est par une vie simple de chrétien, une vie remplie de Dieu, par une considération spirituelle de l'affaire, en considérant que c'est les démons qui empêchent les gens de croire, nous entrons dans le spirituel et nous allons vaincre. Mais lorsque nous restons dans le matériel, dans le physique, nous allons chercher des astuces, nous allons chercher de faire des raisonnements pour amener les gens au Seigneur. Comprenons, bien-aimés, que quelqu'un qui guérissait les malades, quelqu'un qui n'a jamais demandé de l'argent à un autre, Jésus qui a sorti l'argent d'un poisson, Jésus qui a guéri, qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, il a ressuscité Lazare. Jésus n'a fait que le bien. Comment les gens peuvent le rejeter? Comment les gens n'arrivent pas à voir la splendeur du Seigneur? Comment les gens n'arrivent pas à voir la splendeur du salut qu'il accorde à travers sa mort et sa résurrection? Autrefois, nous étions perdus dans nos péchés et Jésus-Christ vient prendre nos péchés et nous sommes pardonnés. Et après, il ressuscite, prouvant que son œuvre est accomplie et nous proposant une vie nouvelle par sa résurrection. Bien-aimés, tout est réglé. Parce que le problème de l'homme sur terre, c'est quoi? C'est la mort. Mais la mort est due à quoi? Au péché. Et Jésus-Christ règle le problème du péché et de la mort. Il te dit tu es pardonné. Il te dit que tu peux vivre une nouvelle vie. Parce que moi, je suis ressuscité. Le problème de l'humain est réglé. Mais les démons vont venir dire, mais regardez les prêtres, comment ils se comportent. Les démons vont venir montrer aux païens, regarde tel pasteur, il demande l'argent aux gens. Regarde ceci, les démons font leur travail pour produire un voile qui va empêcher les gens de croire en Jésus. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons considérer l'affaire d'une manière spirituelle. Comprendre que les gens ne sont pas méchants au point de refuser totalement Dieu, mais c'est parce que certains sont voilés aussi. Et aller dans un combat spirituel dans notre cœur, lorsque tu sais que tu parleras de Dieu, que tu pries pour les gens à qui tu parleras, que tu te battes dans la prière pour que l'œuvre de la croix s'accomplisse, à cause du sang de l'agneau, que le Père du ciel répand sa grâce dans le cœur de ces gens-là, que sa grâce traverse ce voile-là posé par les démons. Nous avons besoin d'aimer les gens à qui nous allons parler. Nous avons aussi besoin d'être assurés, vivre dans l'assurance de ce que Jésus a fait à la croix. Nous ne pouvons pas parler de Dieu en doutant, ce n'est pas bien. Nous devons parler de ce que Dieu est en nous, la lumière qui est en nous. Nous ne devons pas inventer, nous ne devons pas prendre le langage de quelqu'un d'autre. Nous devons parler le langage qui est dans notre cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dis-le, tout simplement. Qui est Jésus pour toi? Dis-le. Qu'est-ce que toi tu as compris? Dis-le. Ne cherche pas à parler comme quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à employer des artifices. Ne cherche pas à ce que Dieu te bénisse financièrement pour mieux parler de lui. Comme ça les gens te respecteront. Ne cherche pas à ce que Dieu te guérisse toi. Parce que tu te dis, mais oui, mais moi je vais leur parler de guérison, même moi-même je suis malade. Mais c'est... Et qu'est-ce qu'il dit Paul ici? Il dit au verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est ça, bien-aimé. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas nous guérir. Il veut nous guérir. Mais on peut se retrouver dans certaines épreuves. Et le diable va te dire, mais qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Toi-même, tu es dans les épreuves. Bien-aimé, tu ne te prêches pas toi-même. Tu prêches ce qui est Jésus. Et Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. C'est lui que tu dois prêcher, témoignant ainsi de la lumière qui est en toi. Il dit, le Seigneur qui a dit que la lumière soit, a dit la même chose dans nos cœurs, que la lumière soit et la lumière de Jésus est venue. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire aux gens, priez, prions, disons Seigneur, que ce que Zachée avait vu, que moi aussi je le vois. Ce qui avait fait que Zachée, lorsque tu lui as proposé de manger chez lui, il a couru, il a ouvert grand les portes. Il t'a accueilli. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vends mes biens. C'est ce que je veux, Seigneur. Ça, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, on dit aux gens, venez, c'est Dieu qui va vous donner. Mais Zachée, c'est lui qui a donné pour saisir ce qu'il avait vu. Pourquoi Paul était comme un fou pour Dieu? Lui-même, il explique ça dans Philippiens 3. Il dit, pour gagner Christ. Je fais tout ça pour gagner Christ. Il a compris qui était Christ. Alors pour lui, il est prêt à tout lâcher pour gagner Christ. Pourquoi les premiers chrétiens ont vendu leur maison? Pour gagner Christ. Ce n'est pas un échange, hein? Ce n'est pas un paiement, on n'achète pas Christ. Hein? Mais ils étaient tellement dans la recherche de Christ que tout ce qui pouvait être un obstacle pour cela, tout ce qui pouvait être un poids, ils s'en débarrassaient. Zachée a vu quelque chose. Ma prière, c'est que tu vois aussi la même chose. Et tu prêcheras réellement aux gens comme il faut. Tu leur diras, Jésus-Christ est la solution. Ils te diront, mais toi, tu as des problèmes. Tu leur diras, je n'ai pas de problème. C'est Dieu qui m'a mis dans les problèmes afin de se glorifier, bien-aimé. C'est ça la différence. Daniel était dans les problèmes. On l'a mis dans la fosse au lion. C'était des problèmes. Mais c'est Dieu qui avait mis là-bas. Pour fermer la gueule des lions. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans les problèmes. Fournaise, mais c'était Dieu qui a mis ça, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce que tu comprends de Dieu, c'est ce que tu prêcheras. Si toi-même, tu es dans le questionnement, si toi-même, tu doutes, c'est pourquoi tu ne peux pas parler de Dieu avec force. Règle tes propres problèmes. En considérant la vraie nature du Seigneur. Médite sur le Seigneur. Discute avec lui à travers sa parole. Médite les versets de la Bible. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas la longueur de la prière qui est importante, mais c'est ce qu'on croit réellement quand on prie. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est ton Père? C'est ça qui est important. Quand tu lui demandes, est-ce que tu crois vraiment qu'il va te donner? C'est ça qui est important. Et ensuite, Dieu te conduira à prier longtemps, mais toujours en prenant en importance tout ce que tu dis, tout ce que tu vis là, tu le prends en importance. C'est ça que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas la longueur de la prière, c'est la foi dans la prière, la vraie communion avec Dieu dans la prière qui compte. Ce que je dis, je le crois, parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Et c'est là que quand tu vas te présenter devant quelqu'un, tu ne vas pas chercher qu'est-ce que je vais lui dire pour le convaincre. Tu vas être là comme Gédéon et le Seigneur agira. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est écrit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce que ton cœur pense de Dieu. C'est ce que ta bouche sortira. Alors, retrouvons une vraie intimité avec Dieu. Nous sommes dans une phase, bien-aimée, où l'évangélisation du monde va devenir croissante. Et le Seigneur veut se servir de nous. Il veut se servir de nous comme ambassadeurs. Et nous avons besoin de comprendre certains principes. Il ne faut pas falsifier la parole. Il ne faut pas chercher des astuces. Devenir riche pour mieux parler de Dieu. Non. Il faut parler de l'évangile. Parce que c'est Jésus-Christ que nous prêchons, ce n'est pas nous-mêmes. Il faut prendre conscience que nous avons affaire à des démons qui empêchent les gens de croire. Et comme on prend conscience de cela, nous on ne voit pas les démons. Nous ne pouvons pas utiliser des astuces contre eux. Nous ne pouvons que prier que Dieu neutralise leur effet sur les gens. C'est ça, bien-aimés. Nous ne pouvons que prier que Dieu abatte les forteresses démoniaques. Nous ne pouvons que aimer encore davantage les gens. Nous savons que l'amour sera plus fort que les forces démoniaques. Nous ne pouvons que davantage connaître notre Seigneur. Nous savons que la connaissance de notre Seigneur sera comme une bombe en nous qui va exploser, car de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que notre cœur abonde du Seigneur, que nous soyons remplis de lui. Et c'est la prière qui va nous remplir de lui, la vraie prière où on croit en ce qu'on dit, où on médite la vision de Dieu. Le Seigneur veut se servir de nous, mais laissons-le nous utiliser. Ne cherchons pas à l'utiliser, lui. Si nous cherchons à l'utiliser, on va se dire, bon, je vais jeûner de telle manière. Après, quand je vais aller là-bas, ça va chauffer. Ça, si tu veux utiliser Dieu. Mais si tu veux que Dieu t'utilise, tu vas dire, Seigneur, je vais jeûner parce que j'ai faim de toi. Je veux que tu remplisses ma vie. J'ai beaucoup mangé le chocolat, maintenant je vais manger le Seigneur. Et je jeûne. Parce que j'ai soif de toi. Il a dit, cherchez ma face. Quand nous jeûnons, nous cherchons sa face. Nous ne cherchons pas des pouvoirs. Nous cherchons sa face. Et quand lui se présente à nous, il fait des merveilles. C'est ça, bien-aimé. Sommes-nous conscients de qui est Dieu? Ne laissons pas les païens mourir, ça fait mal. Moi j'ai du mal lorsque je vois les gens renier le Seigneur. Je me dis, c'est pas bien ça. Comment vous pouvez renier celui qui vous a créé? Je me dis, c'est pas honnête. Ça me fait mal. Et je suis tout le temps en pensée, comment sauver l'humanité? Je médite ça avec Dieu. Et le Seigneur répond aussi. Pas question d'artifice, pas question d'astuce, mais laissons la vie du Seigneur nous remplir. Prions pour abattre les forteresses qui entourent les gens. Présentons-nous devant les gens comme si on était dans un combat spirituel où on attend que Dieu parle, pas comme si on était dans un combat intellectuel où on va vaincre par des idées. J'ai déjà entendu un frère aîné, Richard Rembrandt. Il a eu une discussion avec un juif sur Jésus. Comme lui aussi, il était intelligent. Il a donné des arguments qui ont fermé la bouche de ce juif-là. Mais il dit, je l'ai vaincu dans la discussion, mais il n'a pas été touché parce que j'ai compté sur mon éloquence et mes arguments. Je ne suis pas allé vers ce juif avec amour, dans le but de l'aider, mais j'étais parti pour le convaincre que j'ai raison. On peut toujours gagner lors d'une discussion, mais est-ce qu'on a gagné le cœur de quelqu'un? C'est ça la question. Le cœur ne se gagne pas par l'intelligence, ça se gagne par amour. Il y a quelqu'un qui m'invitait et me disait, « Pasteur, tu dois te préparer, on ira discuter avec des musulmans. » Moi j'ai dit, « Autrefois, j'allais me préparer sérieusement. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une chose qui est importante, c'est que j'aille vers eux avec amour, dans l'esprit de leur présenter l'évangile. Eux, ils vont chercher à m'entraîner dans une discussion. Pourquoi il y a 10 000 dans les rois? Pourquoi il y a 1 000 dans les chroniques? Pourtant, c'est le même texte, c'est la même histoire. Pourquoi on parle de 10 000 chevaux ici, 1 000 chevaux ici? Pourquoi il n'y a pas un S ici, il y a un R là-bas? Mais moi, je vais les ramener à qui est Jésus pour eux, qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus veut pour eux. C'est tout. Je vais y aller avec amour. Ça n'empêche pas, bien-aimés, qu'on connaisse. Ça n'empêche pas qu'on lise ce qui se passe ailleurs pour mieux parler du Seigneur à ces gens-là. Mais nous n'allons plus avec cette logique-là. Je connais et je vais me battre avec ma connaissance. Non, nous devons aller avec la logique. J'aime et je veux voir les autres sauvés. Je ne cherche pas à gagner dans une discussion, je cherche à gagner un cœur. Nous devons arrêter avec les artifices, être des ambassadeurs véritables. Parce qu'avant, vous savez, quand vous lisez 2 Corinthiens 4, avant ça, Paul dit que nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image. C'est ce qu'il dit dans les versets qui précèdent le chapitre 4. Donc nous devons laisser la parole de Dieu nue pour que les gens soient en face du Seigneur. À chaque fois, nous mettons nos embellissements, nous mettons notre intelligence, notre éloquence, nous empêchons les gens d'être en face du Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des plans, des prédications. Le but quand on fait ces plans-là, c'est pour être clair, mais ce n'est pas pour convaincre par l'éloquence. Nous devons tout faire pour que l'évangile soit transmis clairement. Ainsi, la personne est en face de Dieu et Dieu seul peut toucher un cœur. Amen. C'est ça la vérité, bien-aimés. Je vais parler aussi de nous, les chrétiens. Nous avons compris que si les païens se rebellent, c'est parce que les démons les empêchent de comprendre la splendeur. Hein? Paul dit clairement la splendeur, la gloire qu'il y a dans l'évangile. Il y a une gloire, bien-aimé. L'évangile te dit que tu deviens le fils de Dieu. C'est glorieux. Parce que je vous dis que si un d'entre nous recevait une lettre, comme quoi il serait un cousin même éloigné de Sarkozy, il va sauter de joie. S'il recevait une lettre comme quoi son oncle en Amérique a laissé un héritage, même s'il n'a jamais connu cet oncle, il va l'aimer d'un coup. Mais alors, l'évangile t'accorde de devenir fils de Dieu, fille de Dieu. Est-ce qu'on peut saisir c'est quoi, bien-aimé? C'est pourquoi Paul dit la splendeur de l'évangile. Les démons empêchent les gens de réaliser la splendeur. C'est une gloire extraordinaire d'être fils de Dieu. Fils de celui qui a fait les cieux et la terre. Et pendant que toi tu parles de l'évangile, les démons disent à cette personne-là, mais regarde comment les chrétiens se comportent. Regarde comment ils sont méchants. Regarde ce pasteur ce qu'il a fait. Regarde les prêtres ce qu'ils ont fait. Regarde. Pourquoi les guerres? Les démons mettent tout un circuit pour empêcher la personne de croire. Maintenant, comment la personne va croire? Par la puissance de l'évangile. Comment cette puissance sort? Par notre propre paix, notre assurance, notre propre communion avec le Seigneur et notre vie de prière, notre amour pour les parents et pour les païens plutôt. C'est cet amour-là. C'est la prière. Parce qu'on aurait compris que nous avons affaire à un combat spirituel. C'est ça qui fera que l'évangile que nous sortirons sera réel. Sera comme si Dieu lui-même parlait. Donc, c'est le problème qu'on doit régler, c'est notre problème qu'on doit régler. Et beaucoup subissent les assauts des mêmes démons qui empêchent les païens de croire à la splendeur de l'évangile, de saisir la splendeur de l'évangile. Beaucoup de chrétiens subissent la même pression. Ils ont tellement de doutes. Je parlais avec un homme qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Il m'a dit, mais j'ai des chrétiens autour de moi, mais eux-mêmes, ils sont tellement malheureux. Les chrétiens eux-mêmes ne croient pas à la splendeur de l'évangile. Ils en ont fait une religion de la terre. Quelque chose qu'on bâtit sur la terre, comme une association. Des gens qui se connaissent, on a plus ou moins l'objectif de grandir cette association. Bien aimé, les partis politiques aussi s'agrandissent. Il y a beaucoup d'associations, l'association contre les cancers, ça s'agrandit aussi. Greenpeace, ça s'agrandit. Mais nous sommes du ciel, fils et filles de Dieu. Nous devons saisir cette splendeur-là. Nous sommes les représentants du Dieu créateur sur terre. Quand tu saisis tout ça, mais tu réfléchis à toi. Tu réfléchis. Zachée, quand il a vu Jésus, il a dit, bon, c'est fini. J'ai vu le Fils de Dieu. Siméon, quand il a vu Jésus, il a dit, il était encore bébé, il a dit, Seigneur, maintenant je peux mourir. Parce que j'ai vu le Fils de Dieu, la gloire d'Israël, ton peuple, la lumière pour toutes les nations. Bien-aimé, aujourd'hui, nous, Jésus est devenu une sorte de modèle. Seulement, non. Jésus est vivant, bien-aimé. J'aime le mot « il est vivant » parce que ça montre qu'il peut parler encore, il peut te soutenir, il est là à tes côtés. Ce n'est pas un livre que tu lis, Jésus. Il est vivant. Il continue à agir, à libérer, à guérir, à secourir. Beaucoup de chrétiens ont oublié que Jésus a souffert très fort à la croix. Et lorsqu'ils ont commis un péché, ils restent dans ce péché-là parce qu'ils ont peur du Seigneur. Ils se disent, c'est fini, mes bien-aimés. Alors, pourquoi les souffrances de l'agneau? La splendeur de l'évangile. Il a vaincu le péché. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1,9, si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Cela fait honte parce que Satan va te dire, mais oui, ça fait 5 fois, tu fais toujours le même péché. Mais bien-aimé, est-ce que toi, qu'est-ce que tu choisis? La splendeur de l'évangile ou bien la mort dans le péché? Si tu choisis la mort dans le péché, tu vas te culpabiliser et rester dedans. Mais aie le courage de dire, je fais des bêtises, mais je ne veux pas rester dans ces bêtises. Même 1 minute après, Satan te dira, très tôt comme ça, déjà tu demandes pardon. Donc c'est que tu n'as pas été, tu fais ça exprès. Bien, mais tu vas entendre toutes sortes de voix. C'est les forteresses pour t'empêcher de saisir la splendeur de l'évangile. L'évangile du pardon, ce n'est pas seulement l'évangile de puissance, c'est aussi l'évangile du pardon de Dieu qu'il accorde. Afin que tout le temps tu sois pur. Mais comment tu vas être tout le temps pur si tu n'es pas pardonné quand tu pèches? Satan va vouloir que tu restes dans le péché en te disant, tu as trop demandé pardon, et en plus à ton niveau, ça fait 15 ans que tu es chrétien, tu ne peux pas faire de tels péchés, reste-y seulement, tu es mauvais. Et en plus le Seigneur, il est trop dur envers vous, il ne voit pas que vous êtes fait de corps. Et petit à petit, tu commences à bouder toi-même le Seigneur, tu commences à réfléchir, et souvent, Satan va t'empêcher de bouder directement le Seigneur, mais tu vas commencer à bouder les frères et sœurs. Tu vas commencer à bouder ceux qui te disent la vérité. Parce que ça te montre ce que tu es. Et tu vas commencer à les considérer petit à petit comme des adversaires. Ça, c'est le diable qui est en train de mettre des forteresses entre toi et la splendeur de l'évangile. Bien-aimé, Zachée ne s'est pas posé de questions. Il a dit, si Dieu est venu dans ma maison, c'est qu'il me pardonne. Ah, bien-aimé, il s'est dit, c'est fini. S'il est venu, c'est que il m'a accepté. Alors moi aussi, j'accepte qu'il m'a accepté. C'est ça la simplicité. Paul, lorsque le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, il a dit, « Oh, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis prêt à te suivre. Le passé, c'est fini. » Bien-aimé, nous-mêmes, nous devons être libérés parce que beaucoup sont en train de périr. Il est écrit, c'est parce qu'ils périssent qu'ils ne saisissent pas la splendeur de l'évangile. Vous savez, quelqu'un qui est malade à l'hôpital, même si on lui amène des repas faits par des cuisiniers 5 étoiles, si ça existe, non, c'est 3 étoiles. Hein. Eh bien, malgré ça, il n'aura pas le bon goût de cette affaire. Parce que sa langue n'a pas le même goût qu'une personne qui est en bonne santé. Beaucoup de chrétiens sont en train de périr. Comment tu vas savoir que tu es en train de périr lorsque tu n'arrives plus à saisir la splendeur de l'évangile? Lorsque tu es cassé, on peut toujours être abattu un instant, mais lorsque ça traîne, ça veut dire que tu es en train de mourir dans ta foi. Réveille-toi. L'évangile est splendeur et gloire. Nous ne sommes pas les premiers à être passés par les difficultés, mais les gens comme les Paul, on lui dit même à Jérusalem, on va t'arrêter. Il dit, mais je suis prêt à mourir et à vivre pour Dieu. Je sens que je dois aller à Jérusalem. Mais oui, mais on va t'arrêter là-bas. Il n'y a pas de problème. Et on l'arrête, on le tape, on le laisse même pour mort. Les chrétiens viennent y prier pour lui, il ressuscite, il revit. Paul était dans la prison. En prison, c'est lui qui exhortait les gens qui étaient au dehors pour les fortifier. Parce que pour lui, ce n'était pas une prison. Il dit, moi, je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Voilà les vrais, la race de Dieu. C'est des gens qui ont compris que Dieu contrôlait tout. Jésus devant Pilate. Pilate lui dit, mais tu ne sais pas que moi, j'ai le droit de vie et de mort sur toi. Jésus lui dit, tu n'aurais pas ce pouvoir si mon Père ne l'avait pas donné. Donc Jésus était tranquille. Il sait que ce qu'il est en train de vivre, c'est commandé par son Père. Beaucoup d'entre nous ont perdu la splendeur de l'Évangile et ils sont en train de périr. Repentons-nous d'avoir négligé l'Évangile tel qu'il est donné simplement pour suivre les raisonnements que le diable nous a donnés d'une manière ou d'une autre, en condamnant les uns les autres, en te montrant l'Église sous une forme négative, en te montrant la Bible sous une forme exagérée. Reviens à la splendeur de l'Évangile. Comme je disais hier, moi aujourd'hui on me parle des problèmes, moi je ne me concentre pas sur les problèmes, je me concentre sur celui qui peut résoudre les problèmes. Les chrétiens sont devenus des grands microscopes, prêts à voir le péché chez les autres avec précision. Prêts à voir les obstacles dans la vie avec précision. Ils ont à la fois les microscopes et les télescopes. Parfois, ils voient même les problèmes de loin, avec précision. Moi, je dis, je suis un chrétien qui cherche plutôt les médicaments au lieu de chercher à voir les microbes, bien-aimés. Les microbes, c'est déjà facile, on les voit parce que naturellement, on voit le mal. Mais alors, nous devons occuper notre temps à chercher les médicaments, la puissance et les réponses du Seigneur. C'est ce à quoi nous devons occuper notre temps. Tu reçois une mauvaise nouvelle, tu es déçu par quelqu'un, pense comment résoudre cette affaire au lieu de penser à son problème, à ce qu'il te fait comme mal, à ce qu'il t'apporte comme déception. Au lieu de méditer les défaites, médite les voies de victoire que Dieu a proposées. Bien-aimé, les défaites, tu les vois déjà. Alors ne passe pas ton temps à méditer sur elles. Passe ton temps à méditer sur les voies de victoire qui sont proposées dans la parole. Nous sommes entourés de contrariétés, bien-aimé. Il est écrit dans la parole que quand nous arrivons au paradis, le Seigneur essuiera nos larmes. Il est conscient que nous sommes entourés de difficultés chaque jour. La pression du péché, la pression du monde, les coups bas, les faux frères, les fausses sœurs, tout ça, on est entouré de ça. Mais nous avons la lumière de Dieu en nous pour régler tout cela, tous ces problèmes. Afin que nous en sortions victorieux chaque jour parce que Dieu est plus fort que tout cela. C'est pourquoi Paul, malgré la prison, était heureux. Il n'est pas le seul. Il y a Esther Gulshan. Elle a été emprisonnée. Elle était triste d'être emprisonnée. Mais en prison, elle a converti des âmes. Et quand elle a voulu la sortir de prison, elle a refusé. Parce qu'elle se sentait bien. Parce que la gloire de Dieu était là, bien-aimée. Aujourd'hui, les chrétiens veulent que toutes les conditions soient remplies. Pour bien... Ils se disent, je vais servir Dieu. Bon, tout ça, il y a les bons micros, il y a ceci, il y a cela. Bon, il y a telle somme, bon, il y a telle voiture. Bon, là, maintenant, je peux aller servir Dieu. Alors que Jésus-Christ avait envoyé les disciples sans argent. Bien-aimés, si nous voulons prêcher aux païens, nous devons veiller sur notre propre vie. Que la splendeur de l'Évangile, nous-mêmes, nous la voyons. Je devais faire bien aimé un voyage du Canada aux États-Unis, mais problème d'argent, on m'a acheté un billet compliqué, bien aimé. Un billet où tu devais, pour entrer dans l'avion, il fallait qu'il y ait de la place. Alors, il fallait maintenant 4 vols. Donc, je pars d'Ottawa, la capitale du Canada, à Détroit, et puis de Détroit à Raleigh. Alors, ça fait 4 vols aller-retour. À chaque fois, tu peux voyager que s'il y a de la place, bien-aimé. Je dis à la guerre comme hein, à la guerre. Donc on va y aller avec la puissance de Jésus-Christ. Premier voyage. Je me retrouve assis à côté de quelqu'un qui me pose la question, tu es un pasteur? Moi je dis, mais oui, comment tu sais? Oh, ben, tu t'es vu avec la Bible. Moi aussi je suis pasteur. Et quand je t'avais vu sur la queue, je m'étais dit, Seigneur, mets-moi avec lui. On va qu'on s'asseye ensemble. Eh bien, on nous a mis aussi ensemble. Et on a discuté, on a prié, j'ai dit, mais c'est pas possible. Lui, il a prié qu'on se mette ensemble. Et il était encore plus grand que moi, donc nous tous, les jambes compliquées. On nous a mis ensemble. Bien-aimé. Lui, un Canadien, moi, un Afro-Français. Mais C'était comme si on se connaissait depuis longtemps, bien-aimé. Quelle joie! Il partait le vendredi, le jeudi pour retourner le lundi. Moi aussi, je partais le jeudi pour retourner le lundi. Il partait voir son frère. Moi aussi, je partais voir mon frère. Bien-aimé, ça, c'est la splendeur de l'évangile. Après, il y a eu d'autres péripéties. Mais bien-aimé, la dernière, c'était le retour de Détroit à Ottawa. J'arrive, là, c'était à 21h le vol. J'arrive à 20h, je dis à la dame, bon, c'est comment, est-ce qu'il y a de la place? Écoutez, on va voir. Non, non. À chaque fois, on me disait, on va voir. Mais là, elle m'a dit d'un coup, il n'y a pas de place, c'est rempli. Ce vol-là, c'est rempli. Mais je ne sais pas qui c'est qui lui a pris. Elle a commencé à crier, est-ce qu'il y a des volontaires pour rester, pour que quelqu'un d'autre voyage? Donc, rester, ça voulait dire dormir à l'aéroport, hein. Donc, parce qu'il n'y avait pas d'autre vol après. Je me disais, Seigneur, là, c'est cuit. Donc, toutes les places sont occupées. C'est pas comme l'autre, il fallait attendre pour savoir tout, si toutes les places sont achetées. Là, on sait que toutes les places sont achetées, c'est fini. On m'a dit, c'est. J'ai dit, mais quand est-ce que je vais avoir le dernier mot? Il m'a dit, peut-être 15 minutes avant, à 21h30. À 21h30, j'arrive là. Ben non, les places sont occupées. Et bien aimé, à 21h, moi entre-temps, j'avais prié. Hein. J'ai dit, Seigneur, fais un miracle, parce que tu es le Dieu de gloire. À 21h35, on commence à appeler deux personnes qui n'étaient pas là. On appelle sur l'interphone, venez, venez, le vol va partir. Je sentais que la dame voulait que je parte. Et j'avais ma casquette, sur ma casquette c'était écrit, « Say yes to Jesus, dis oui à Jésus. » Donc devant moi, on ne pouvait que dire oui. Elle voulait que je parte, bien-aimée. Mais elle ne pouvait pas créer des places. On a appelé les absents, les deux là. Entre-temps, quelqu'un s'était rajouté qui était dans mon cas, qui attendait aussi qu'il y ait une place pour partir. Donc on était à deux. Les choses se compliquent. 21h40, il reste encore 5 minutes. Sa collègue voulait faire encore l'appel. Il dit à sa collègue, laisse ces choses-là. Monsieur, donnez-moi votre passeport. Je donne le passeport. Bien-aimé, on me laisse partir. Moi, je me dis toujours, on risque de me rattraper là-bas en partant. Si les gens la venaient, on a vu quelqu'un descendre de l'escalier. Est-ce que vous êtes du voyage? Lui-même, il a bougé, il n'a pas bien compris, mais il a déjà bougé. Non, c'est pas moi, j'ai dit bon, ça y est, jusqu'au bout. Bien-aimé, j'entre. Mais j'avais un bagage à main très lourd. Et il fallait que je dépose ça juste avant d'entrer dans l'avion à côté d'un ascenseur pour qu'on nous redonne ça parce que c'est des petits avions, il n'y avait pas de place pour prendre ce genre de bagage. J'ai fait 3 pas. Il y a un homme, un vieil homme qui était là, qui suivait notre discussion avec la dame pour que je parte. Il était là, un bagagiste. Il était là. Quand il m'a vu être accepté partir, il me dit en anglais, donne-moi ton sac. Alors moi, je suis plus fort que lui, plus jeune que lui. Lui, vieux, il me demande de lui donner son sac. Je n'ai pas raisonné, je lui ai donné mon sac. Je suis parti, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi il a voulu porter mon sac, mais il a porté mon sac. Et je suis parti les mains libres. On m'a mis à la place, à la deuxième place, alors que ceux qui avaient payé normalement étaient derrière là-bas, bien-aimé. Et cette nuit-là, j'avais envie d'être au ciel tellement j'ai vu. Pour moi, c'était une démonstration que Jésus est vivant. Peut-être que on aurait voulu tous avoir un billet sûr, mais moi, je ne l'ai pas eu par manque de moyens, mais j'avais un billet sûr, c'était le Seigneur lui-même. C'est ça, bien-aimé. Je n'ai pas eu un vol qui a raté. Tous les vols, à chaque fois, j'ai trouvé la place. Et ce dernier-là, ces deux personnes-là ne sont pas venues. Et j'ai pris la place. Dieu est tout-puissant. Et quand je suis rentré chez moi, chez le pasteur là-bas au Canada le lendemain, j'ai dit, Seigneur, ce vieux-là, ça devait être un ange gardien. Parce qu'il suivait la discussion. C'est comme si j'étais de son camp. Il attendait qu'on dise, ça y est, il prend mon sac. Et puis moi, je m'en vais, bien-aimé. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Nous devons croire. Si nous croyons, nous pourrons parler de Dieu, de l'abondance du cœur, la bouche parlera. Si nous croyons, nos situations vont changer. Mais même si elles sont difficiles, Dieu nous donnera la gloire de les surmonter, comme nos prédécesseurs. Revenons nous-mêmes à la splendeur de l'évangile. N'acceptons pas le petit évangile. Entrons dans le vrai évangile. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est mort à la croix. Et donc tous les démons doivent se soumettre aux chrétiens. C'est ça la vérité. Nous pouvons avancer et dire que notre ville, nous la gagnerons. Même si ça semble difficile, mais le Seigneur nous a donné l'autorité. Revenons à la splendeur de l'évangile. Repentons-nous de ce que nous avons laissé les raisonnements l'emporter sur la simplicité de l'évangile. Nous avons laissé les astuces l'emporter, les artifices l'emporter sur la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. Jésus a crié, tout est accompli. Entrons dans cela et nous verrons la gloire de Dieu. Et les gens vraiment autour de nous pourront être touchés parce qu'ils verront l'évangile en face. Ils verront Dieu en face parce que nous, on aurait laissé Dieu s'exprimer lui-même et nous mourir réellement comme Paul le dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Seigneur, nous te remercions de nous rappeler, Seigneur, d'entrer dans la splendeur de l'évangile, de revenir à la prière afin de sauver les âmes, afin que nous-mêmes nous soyons transformés intégralement. Car les choses dont nous parlons sont spirituelles, elles ne sont pas matérielles, elles sont spirituelles. Et ce genre de combat ne se remporte que dans la prière, ne se gagne que dans la communion avec toi, Seigneur, ne se gagne que dans la foi en ce qui est écrit. La foi simple des enfants, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Croire comme des enfants que Jésus, c'est le plus grand nom, c'est notre solution, c'est notre force. Il est vivant, c'est l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés de l'humanité. C'est celui qui a crié, tout est accompli. Alléluia. Jésus.